Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et puis, comme j'ai été latéralisé du côté droit, puis je pense que c'est là où je me sens le mieux.
Non, non, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est pour vous. Ça vous donne du pain à moudre là-dedans.
J'essaie d'apporter des idées. Voilà. C'est ça qui m'importe. Et c'est pour ça que je suis là, à l'After Foot, qui est la messe du football.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Et oui, la messe du football, c'est comme ça que Frédéric Thierry a rebaptisé l'after hier, messieurs dames, on est là jusqu'à minuit, dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Stéphane Guy, bonsoir.
Citoyen, bonsoir.
Et Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Est-ce qu'il y a un vice-capitaine dans l'after, Gilbert? Je me posais la question cet après-midi. Combien
il y a de vice-capitaines? Le capitaine,
c'est Gilbert.
On sait qu'il y en a.
Combien il y a de vice-capitaines?
Finalement, à l'arrivée, on en a quatre.
Ah, on a quatre capitaines.
Ouais, parce que Gilbert a pas osé regarder.
Il n'y a que des vice-capitaines. Moi, je m'inspire des plus grands clubs.
Il n'a pas osé regarder. Alors, trop, il n'a pas osé me regarder pour me dire que t'es
Stéphane,
plus tout seul.
Tu es vice-capitaine. Tu es vice-capitaine. Florent Gautreau est vice-capitaine.
C'était que moi.
Ah,
et après, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres.
Tu ne savais pas que les autres l'étaient aussi.
Mais je ne sais pas qui est Mbappé dans l'histoire. Il paraît que c'est Oussem.
Alors, Oussem, il n'est pas vice-capitaine. Il est encore dans Génération After.
Ah, d'accord.
Oussem, c'est Zahir Emery. Tu vois. Ou El Shaddai Bichabou.
D'accord.
Bref.
Ah, comme tu t'es lâché sur le nom là.
El Shaddai Bichabou.
Comme ça, t'as sorti ça.
Ah oui, je le travaille depuis un moment.
Tu l'as bossé, tu l'as bossé, Gilbert.
Incapable d'être fluide sur ce genre de nom.
C'est facile, vas-y. El Shaddai Bichabou.
El Shaddai Bichabou.
Bichabou.
Bichabou. El Shaddai Bichabou.
Mieux, mais pas top encore.
Ah, tu vois, je suis pas fluide du premier coup là. Toi, t'es.
Pourtant, t'as connu commentateur, hein. On s'en souvient d'ailleurs.
On a même les dossiers.
Ah oui. Ouais. Ah, c'est ça, dans nos métiers, il y a des dossiers, de toute façon.
Ouais, t'as jamais évalué les dossiers de Daniel sur ses commentaires?
Et je crois qu'il a entendu et ça se passait d'évaluation, je crois.
Non,
enfin, d'abord, c'était tout début. Hein.
Ouais, ouais, exactement. C'est ce que j'allais te dire. C'est si on ressortait des commentaires des uns et des autres à leur début, on ferait peut-être pas les malins.
Et tu sais que tellement c'est pas forcément une période au tout début qui m'a vraiment marqué. Je crois que c'est grâce à Nico Jamin que j'ai découvert ce passage. J'avais complètement oublié. Bah, figure-toi, je n'en avais aucun souvenir. J'ai commenté la première sélection de Messi avec l'Argentine. J'avais aucun souvenir.
En plus,
il a pris un carton rouge. Alors, c'était un Argentine, je sais pas quoi. Franchement, j'ai oublié. Première sélection de Messi, il prend un carton rouge dans le match.
Donc, jusqu'à l'année 2006,
il a ses petits cheveux longs. Ouais. 2004-2005. Et je commentais le match avec Romain Del Bello.
Bon salut.
Aux États-Unis, c'est ça. Voilà, je n'avais aucun souvenir de ça. Et c'est.
Et tu sais ce qu'il fait, Romain Del Bello? Il a un métier incroyable parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est très compliqué pour un journaliste français de travailler aux États-Unis. On peut difficilement trouver de piges dans les journaux américains, par exemple.
Mmh.
C'est tout le problème du travail immigré aux États-Unis. Hein. C'est pas seulement le point journaliste. C'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Et Romain, il travaille pour Le Monde. C'est-à-dire qu'il est l'alerte, la vigie du Monde la nuit. Dès qu'il se passe un truc dans Le Monde la nuit, forcément à Paris, les journalistes dorment, c'est lui à Los Angeles avec le décalage horaire qui assure les correspondances. Donc si cette nuit, je ne sais pas, une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne nouvelle cette nuit? Poutine meurt à 4h du matin. Eh bien, Romain Del Bello sera celui qui fera sans doute la première dépêche sur le fil du Monde.
Ouais.
Voilà. Ouais. En plus de ses activités, il continue aussi à piger pour des médias sportifs. Mais il remplit notamment cette mission-là.
Étonnant. Je ne savais même pas que ça existait, ça.
Ah ouais.
La première sélection de Messi, c'est contre la Hongrie.
Donc c'était Argentine-Hongrie que je commentais.
Bah écoute.
Quelle date alors, Gilbert?
Attendez. Là, j'ai les images sous les yeux. Je vais vous retrouver ça.
Il a le numéro 18, ça, je me souviens.
Oui, exact.
Il a le numéro 18. Je me souviens. Il prend un carton rouge.
Ça me rassure parce que j'ai un maillot chez moi qui est soi-disant un maillot de Messi avec l'Argentine où effectivement il a le 18. J'ai toujours eu un doute de savoir s'il était vrai ou pas.
Si, c'est vrai. C'est ça. Et t'as pas la date 2005 ou 2004?
2005.
C'est ça.
J'ai pas la date exacte.
2005, donc il était même pas encore titulaire au Barça. Il était déjà en équipe d'Argentine.
Un an avant la création de l'After.
Voilà.
Il
y a des mecs qui disent normalement tu dois te souvenir d'un truc comme ça. Je m'en suis presque voulu de pas m'en souvenir. Je me suis trouvé.
Tu as une bonne mémoire, surtout que tu as une bonne mémoire des matchs.
Oui.
Moi, il y a des tas de matchs.
C'est ça qui m'a étonné. Je m'en suis vraiment voulu. Comment je ne peux pas avoir en tête d'avoir commenté ce match-là? C'est fou.
Alors, le programme dans les deux heures qui viennent, les gars. On va parler de l'OM. Alors, on va prolonger le mini-débat que Génération After a fait il y a quelques instants, là, sur le mercato de l'OM, avec cette question, Longoria est-il en train de rater son mercato? Il y a un truc étonnant, c'est que là, il y a des joueurs qui disent, bah non, Marseille, non, nous intéresse pas. Mofi, là, ce soir, il y a des infos qui arrivent d'Italie concernant Ilic, qui était annoncé à Marseille pour la saison prochaine et qui aurait choisi plus un autre club. Je vous donne les infos dans quelques instants et on va en débattre. Plus les autres infos mercato du jour, évidemment. Puis après, on partira sur un after très international ce soir. Un mot sur ce qui se passe en Italie autour de la Juve, où après les points retirés, on découvre qu'il y a des malversations financières qui ont été organisées avec les joueurs pendant le Covid. Pour payer, pour échapper à l'impôt en Italie, plus des nouvelles affaires de racisme, cette fois à Rome. Et puis à 23h, l'Argentine au programme, comme convenu. Georges Quirino Chavez sera là. Vous savez qu'il vit à Buenos Aires. Il est de passage à Paris. Il a choisi sa semaine. Hein. La semaine où il fait 0 degré et ciel bas, brouillard. Voilà, c'est bien. Alors que l'abbé fait 35 en ce moment. Bien joué, Georges. Il sera là pour nous expliquer un peu l'incompréhension en fait entre Français et Argentins, là, les chambrages, tout ça, puis le foot en Argentine, comment il vit ça, les clubs dans tous les quartiers. Enfin, ce sera passionnant tout à l'heure avec Georges qui sera avec nous. Le 32-16 est ouvert pour en parler. Et puis on aura également Fred Hermel en fin d'after tout à l'heure parce qu'il y a un match en ce moment entre le Real Madrid et l'Atlético. Derby madrilène en Coupe du Roi en quart de finale et c'est l'Atlético qui mène 1-0, figurez-vous, dans ce match. Donc je vous tiens informé dès qu'il y a une évolution de score. Tout à l'heure, il y a un autre match. Bilbao a gagné sur le terrain de Valence. Donc Bilbao est qualifié. Juste le compo du Real, c'est grosse équipe. Hein. Benzema, Vinicius, Modric, Camavinga est titulaire. Ferland Mendy est également
C'est blessé, Ferland Mendy.
Ah, il s'est blessé tout à l'heure. Ah oui, il est sorti, exact.
Il est sorti, ouais.
Ah, ça m'a échappé.
Grosse blessure, a priori.
Voilà, donc je vous tiens informé de l'évolution du score. Il y a aussi Benfica qui joue ce soir, je crois, en championnat. Oui, les Portugais ont remporté le championnat le jeudi soir. 2-0 à la mi-temps pour Benfica à Passos de Ferreira. Voilà, je sais pas où c'est, Passos de Ferreira. Ah si, c'est au nord du Portugal.
Ah ben, on s'est de Porto.
Ça intéresse, avec Nico Villas qui nous en parle. Oui, alors l'OM, allons-y. Alors, je vous donne les infos avant que chacun puisse donner son avis. Et le 32-16 est ouvert, supporter marseillais. Parce que mine de rien, là, Longoria, qui est un expert S Mercato, on sait que c'est ce qu'il aime faire le plus. Et rappelez-vous, on vous racontait il y a deux jours qu'il était allé à Lorient faire un aller-retour pour organiser un échange Mofi-Dieng avec peut-être de l'argent et tout ça. Enfin, tout ça est en train de foirer complètement, puisque Mofi ne veut pas aller à Marseille. Et l'OM ce soir n'a plus d'espoir de le voir arriver. D'ailleurs, Marseille a décidé de pas insister. Il dit bon, si le gars veut pas venir, il veut pas venir. On va pas non plus s'accrocher. Voilà. Et dans l'autre sens, à Lorient, vous savez qu'on a ressorti le fameux dossier du genou de Dieng qui avait fait foirer son transfert à Nice. Il y a quelques temps de ça. Alors à Marseille, on dit ouais, mais c'est peut-être un moyen pour Lorient de gagner un peu de temps ou de gratter un peu de sous sur le prix. Nous, on est confiants. Il n'y a pas de problème avec le genou. D'ailleurs, il a joué récemment à Dieng. Donc voilà la situation.
Ça m'a rappelé une histoire, ça, d'ailleurs, qui est liée à Lorient. C'est que quand Aboubakar a percé à Lorient, Vincent Aboubakar, le Camerounais, qui était exceptionnel à Lorient, quand il a percé, on a très vite dit ça dans le monde du foot. Attention, il a un genou. La carrière sera limitée. Bon, tout de suite. Hein, et On est 10 ans après ou 15 ans après, je sais pas.
Il joue toujours.
Voilà. Vincent, on est au moins 12 ans après, parce qu'il a fait la Coupe du Monde 2010. Donc c'était avant. Donc voilà, il est toujours là, il est toujours un club. Donc les histoires de rumeurs autour des blessures de genoux dans le foot, c'est toujours un peu douteux.
Voilà. Donc pas. Voilà. Enfin, sauf si là, on s'en sert comme d'une espèce de prétexte dans les négos. Bon.
Alors.
Attends, j'ai pas fini. Donc. On en était il y a 48 heures.
Il est chaud.
Non, mais il faut donner toutes les infos.
Ouais, vas-y, mais j'ai rien dit, moi.
Il y a 48 heures, on donnait le truc comme quasi fait. Longoria s'est déplacé. Super, quand il se déplace, en général. Bon, au final.
Éloge de Daniel. Moi, j'ai écouté l'after.
Peut-être que ni l'un ni l'autre ne va se faire. Juste sur Mofi, quand même, pour être complet. Nice est toujours confiant, mais là aussi, rien n'est fait pour l'instant. Négociation en cours entre Lorient et Nice. Nice veut pas surpayer. Lorient bluffe en faisant croire que ça les dérangerait pas de le garder. Enfin, Nice dit que c'est du bluff. Voilà.
Il est dans le groupe, l'orienté demain pour jouer contre Rennes, Mofi.
Et puis, alors voilà. Et puis, donc le cas de Ilic, jeune joueur que Longoria veut également recruter, mais alors plutôt avec stratégie saison prochaine. Et là, ce soir, on apprend en Italie qu'Ilic, lui, a choisi d'aller là maintenant au Torino. Alors bon, s'il va maintenant au Torino, c'est pas pour aller à Marseille dans 6 mois, a priori. Ça ferait 2 dossiers, là, 2 joueurs, qui, en gros, tourneraient le dos à l'OM. D'où la question, est-ce que Longoria est en train de rater son mercato?
Avec une précision, avant que Daniel développe son idée, pourquoi l'OM et Longoria sont aussi actifs sur ce marché d'hiver? Ça peut surprendre, parce que tout va bien à Marseille, ils n'ont pas besoin de s'affoler, ils ont plus de compétition en cours, etc. Mais il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête marseillaise, c'est le transfert de Gueye, qui pourrait leur valoir, peut-être, on ne sait pas comment ça va évoluer, interdiction de recrutement, peut-être pour le prochain mercato d'été. Donc je pense que dans l'idée quand même des dirigeants marseillais, il y avait cette idée d'anticiper cet hiver et de faire des coups qui étaient quand même, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont du mal à les boucler, qui étaient presque surdimensionnés pour un mercato d'hiver.
Lundi, comme tu disais Stéphane, effectivement, à juste titre selon moi, je disais beaucoup de bien de Pablo Longoria. Et...
C'était pas ironique, parce que j'aurais dit à peu près comme toi.
Absolument, et de toute façon je ne retire absolument rien au compliment sur sa gestion, parce que jusque là sur le marché des transferts il n'y a pas beaucoup de ce genre d'échec là sur les gars qu'il a envie de faire venir, et il se trompe peu. Et puis de toute façon c'est un marché où tout le monde se trompe, et dans le contexte actuel, quand tu vois Lyon, quand tu vois ce que fait Campos à Paris, on n'est pas une erreur près à droite à gauche. Là effectivement je suis très surpris, très présomptueux de ma part, la mienne. Je ne sais pas si Longoria l'a été également, de considérer que ça se ferait très facilement en se déplaçant, comme en plus il avait la monnaie d'échange Dieng, Lorient OM, c'est plutôt deux clubs qui ont l'habitude de bosser ensemble, Mofi entre OM et Nice. J'ai dit, à partir du moment où l'OM entre dans la danse, évidemment qu'il choisira l'OM, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et pas dit d'ailleurs qu'il aille à Nice. Ce qui est encore plus faux dans toute cette histoire.
Exactement.
C'est pas complètement fait non plus ça. Mais qu'ils disent non à l'OM dans ces conditions, honnêtement, j'étais à des années-lumière de pouvoir le penser. Et vraiment, sincèrement, pour moi, Longoria allait réussir ce coup-là. Alors, c'est pas l'échec de l'année, encore une fois, ça arrive. Je sais pas, j'ai su qu'il y allait et que ça allait se passer, pour moi, c'est un peu comme si au Monopoly, je te donne rue de la paix contre le Courbe, tu vas pas dire non. Et pourtant, il a dit non.
Les habitants de la rue de Courbe, quand même, Daniel, s'il te plaît.
Rue de la paix, c'est un peu au-dessus. Mais bon. Là, j'en suis encore à me demander. J'ai pas d'explication pour l'instant. Je pense qu'on en aura dans les jours qui vont venir, où les langues vont se délier. On va savoir pourquoi ça a pas pu se faire. Je suis encore très surpris ce soir d'apprendre, puisque là maintenant c'est officiel. Mofi, alors que je l'ai dit ici et sur Twitter, pour moi c'était acté. Je pensais qu'il irait à l'OM. Et pour le jeune joueur, alors tu disais c'est Torino et tout, oui ils sont dans la merde aussi, on est plus près d'un 90-10 dans le mauvais sens aujourd'hui. Donc sur ce mercato d'hiver qui n'est pas terminé, attention, parce que je pense que jusqu'au bout et jusqu'à mardi soir minuit, Pablo Longoria va travailler pour trouver une solution, et notamment dans le secteur offensif, parce qu'il veut un joueur offensif, ça c'est sûr. Je ne sais pas pour l'instant qui il a envie de faire et sur quel dossier il a envie d'avancer. Donc, il se passera normalement quelque chose. Mais sur ces deux dossiers, on est en situation d'échec. Il y a quelques mois, il a réussi à faire Malinowski, qui était une belle réussite. Bon, ben voilà, écoute, ça nous surprend que quelqu'un qui a l'habitude de réussir se plante. C'est un échec. Il n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus, effectivement. On sait tous.
Après, on rappelle les règles du jeu pour Longoria. C'est pour ça que c'est un échec relatif, parce que c'est quand même à somme quasiment nulle, quoi.
Il y a quand même eu Malinowski pendant ce mercato.
D'abord, il y a eu Malinowski, qui est un gros coup effectivement à l'échelle de l'OM et de la Ligue 1. Et puis il n'y a pas les chèques ouverts. C'est pas Nice. Hein. Nice, il y a chèques ouverts. Donc je vois pas l'intérêt de Mofi d'aller à Nice par rapport à Marseille aujourd'hui.
À part
l'intérêt qui est le seul intérêt qui vaille dans le foot, on le répète émission après émission, quel poignon.
Exactement.
Qui est le fil conducteur de tout.
Ah, il peut aussi y avoir parfois des histoires d'agents. Hein. Si par exemple l'agent de Mofi, c'est une supposition que je fais, par exemple à une promesse de commission ou quoi supérieure dans un club ou dans l'autre, il peut aussi pousser son joueur à dire.
C'est également une affaire d'oseille, comme dit Stéphane, sauf que c'est pas. On le saura pas tout de suite, a priori, de cette façon. Mais forcément,
il y a. Forcément.
Voilà.
à la puissance aujourd'hui financièrement, Nice a une plus grosse puissance financière que l'OM. Même si sportivement, il n'y a pas de débat aujourd'hui entre les deux situations.
Dans un instant, on aura Jason, supporter marseillais. Il donnera son avis là-dessus. On continue le débat. OM, supporter marseillais, on vous attend. Et ensuite, on passera au reste du mercato du jour avant de parler des affaires en Italie. Ouais. Oui, Stéphane.
J'ajouterai un truc sur Dieng quand même parce que.
On se retrouve dans 1 minute 30.
Ouais.
À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h17, avant de parler d'Argentine tout à l'heure, un petit peu de Croatie aussi également tout à l'heure. Enfin, on va se refaire une petite Coupe du Monde, une mini Coupe du Monde entre 23h et,
une coupe du monde,
et minuit. Ah oui, c'est vrai Stéphane, c'est parce que t'es là.
Ah j'étais pas là.
C'est parce que t'es là ce soir qu'on s'est dit tiens, faut qu'on se remémore la Coupe du Monde, qu'on se rappelle à nos bons souvenirs. Restons pour l'instant sur l'OM avec donc un supporter marseillais qui est là, Jason, bonsoir.
Bonsoir.
T'es étonné de ce qui se passe ou tu dis c'est peut-être juste aller une putain d'icroche dans le travail de Longoria, qu'est-ce que t'en penses?
Non, je suis pas. Déjà, je suis pas étonné, je suis pas inquiet. On a eu tendance les années précédentes à avoir un mauvais exemple avec Monsieur Disneyland qui nous gérait. Avec le panic buy, Longoria il panique pas.
Ah, parle de Jacques Auriaro qui bossait à Disneyland avant d'arriver à l'OM.
Voilà, entre autres. Donc Longoria anticipe tout. Il a pas mal d'écrans de fumée. Et à l'heure actuelle, c'est pas parce que deux joueurs ont dit non. Déjà, il y en a qu'un pour l'instant parce que Mofi, on ne saura pas le faire maudit. Mais il dit qu'après, il n'est peut-être pas prêt à rentrer au Vélodrome. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien d'inquiétant. On a un effectif qui est complet. On est quand même troisième avec la deuxième
meilleure. Ah non, personne, Jason. Il ne s'agit surtout pas d'être inquiet. Attends, l'équipe, elle tourne et tout. C'est juste que, voilà, il y avait les renforts et qu'on n'est pas habitué à ce que Longoria, quand il est sur des dossiers comme ça, on trouvait que c'était tellement formidable. Formidable ce qui se passait que deux renforts de cet acabit, c'était encore plus formidable. Mais on va rester sur le formidable plutôt que sur le encore plus formidable.
Il y a autre chose qu'on n'a pas encore dit.
Il y a pas de problème.
Il y a autre chose qu'on n'a pas encore dit, Jason. C'est l'OM a toujours été un club, on va dire, très attractif. C'est un joueur de Ligue 1 quand il t'a, Paris, Marseille. Lyon, dans une moindre mesure peut-être maintenant, mais enfin, sûrement.
Non, mais est-ce que c'est forcément...
le gars y va en fait.
Non, est-ce que c'est forcément.
Oui, dit je veux y aller.
Est-ce que c'est forcément une remise en cause de l'attractivité de l'OM? Je sais pas. Stéphane a dit tout à l'heure, et ils le disent très souvent, et il a raison. Généralement, l'explication, il faut toujours la chercher sur l'argent qui est donné, la com, l'agent. Pardon, Mofi, c'est très difficile de savoir qui s'occupe de lui. C'est un agent nigérian avec des intermédiaires. Très peu de gens connaissent un peu de quoi est fait l'environnement de Mofi. À moins que je me trompe, mais je crois pas.
Romain Calutti nous a parlé d'un Français, l'autre jour,
Il a des relais. Et donc, laissons le temps et prenons le temps de savoir ce qui s'est réellement passé et ce pourquoi il a refusé l'OM. Et de toute façon, l'explication, on l'aura. Mais de là à remettre en cause l'attractivité de l'OM pour ça, ça me paraît un peu exagéré de toute façon.
Après Daniel, en ce moment, depuis quelques temps, tu analyses de plus en plus l'OM et tu sais aussi bien que n'importe quel supporter, quand ça commence à parler des pistes de Longoria, c'est que ce ne sont pas des vraies pistes. Donc il a toujours deux coups d'avance dans sa poche.
Après, il n'est pas allé à Lorient quand même pour pêcher du hareng.
Non, là, je pense que vraiment il s'attendait à ce que ça marche. Il a été surpris. Là, il faut dire que là, il est un peu comme tout le monde. Il a été vraiment surpris. Mais il est sur d'autres pistes pour mardi et il espère les faire. Voilà.
Après, attention, dernière chose, il y a eu un très beau mercato cet été. Beaucoup d'équipes ont fait des très beaux mercato avec des très beaux joueurs. Mais à l'heure actuelle, tu as certaines équipes que tu as mis à 17 points et ça, c'est pas anodin. Donc, tu as su faire aussi. Il y en a qui sont fanfaronnés de faire revenir des gladiators. Nous, on n'a pas fanfaronné, on est à notre place. Donc, on aura les joueurs qu'il faut. Mais après, c'est pas un manque d'attractivité, de Marseille.
Un petit coup de rap à Chérou en passant de la part d'un supporter de l'OM. T'as vu, Pam Discretos.
Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de.
Les Chérou, c'est l'hiver dernier, non?
L'été dernier quand il.
Il a fait le malin, ouais.
L'hiver dernier, non? C'était pas l'hiver dernier?
C'est l'hiver dernier ou l'été dernier?
Avec Fèvre, ou je sais plus. Non,
non,
c'était la Gazette et Tolisso reviennent.
Ah, la Gazette et Tolisso.
Non, mais après, dans.
Oui, il y en a certains ailleurs qui aimeraient bien avoir le même mercato que nous.
Dans le jeu un peu de clubisme qui peut conduire à se moquer des uns des autres, machin. Très honnêtement, c'est pas le PSG qui va pouvoir se moquer de qui que ce soit avec le mercato lamentable qui a été fait. C'est pas Lyon qui va pas. Donc bon, t'as le droit de rater un joueur. On va pas non plus en faire un fromage, quoi. C'est bon.
Non. Non, non.
Non, par contre, il y a un truc. Moi, il y a un truc qui me choque beaucoup et j'étais content tout à l'heure d'entendre Jonathan en parler quand même. C'est que dans ces périodes de mercato, on balance des noms, on balance des chiffres, on balance des agents, etc. Mais on oublie quand même qu'il y a des hommes au milieu de tout ça. Et moi, le Bamba Dieng, je trouve que cet homme-là n'est pas respecté depuis des mois et des mois. Il est traité comme une marchandise. Et ça, je trouve que de la part de l'OM, c'est pas bien du tout. Et je sais pas, je ne le connais pas, donc je ne sais pas quelle est sa force mentale et psychologique. Mais avec ce qui vit depuis un an, faut être d'une force supérieure pour passer à travers tout ça.
Le sportif.
Et on le met en bas, on le jette, on dit qu'il est bon à rien. Après, on le ressort. On commence à dire, on compte sur lui. Puis là, maintenant, on veut le vendre. Et puis, finalement, c'est pas le bon prix. Puis, non, mais attendez, on on oublie toujours.
Qu'il a envie de se barrer. C'est vrai qu'il a été traité un petit peu comme.
De la façon qu'on apprend que Ryan Cherki, les clubs parlent, tout le monde parle, mais que lui, il est pas au courant. Donc, le seul mec qui est concerné, il est finalement pas au courant. Enfin, je veux dire, ça enseigne encore une fois sur la violence de ce milieu. Et c'est pour ça que quand vous avez de temps en temps des joueurs qui résistent à ça et qui font valoir leurs droits pour faire respecter la durée d'un contrat, etc., moi, je suis de tout cœur avec eux. Parce que faut jamais oublier que, à d'autres moments dans leur parcours, on les traite comme des chiens. Même si, évidemment, ils sont,
Tu savais qu'il bossait à l'UNFP? Sur Dieng, moi je te rejoins. Et il y a un autre point, c'est que
le gardien de Rennes là, le fameux Gomis quand même, qui avait été recruté pour remplacer Mendy, qui était titulaire en Ligue des Champions. Rennes a eu l'élégance, si c'est un mot qu'on peut employer dans le monde du football, de le laisser partir là en Italie. Mais ce garçon-là, depuis des mois, qu'est-ce qui se passe on lit plus tard des confessions de joueurs qui ont été en dépression. Là, on n'a plus de nouvelles à Manchester United, par exemple, de Jadon Sancho, quand même, qui était international anglais.
C'est un des rares footballeurs qui lit beaucoup de livres. Puisque c'est un grand lecteur, donc je pense qu'il s'est réfugié dans la lecture.
Espérons-le.
Les joueurs.
Espérons qu'ils ont des bons entourages, des familles, des agents aussi qui, dans ces moments-là, ont un rôle majeur à jouer, etc.
Stéphane, on parlait justement des records battus par la Première Ligue en matière de transfert qui occasionnaient également la disparition nette de certains joueurs qu'on oubliait parce qu'ils acceptaient d'être dans des effectifs sans fin, pléthoriques.
Pas en Première Ligue, Daniel. Évidemment, en Première Ligue, c'est paroxystique.
Souvent, c'est des vedettes. C'est des noms, des mecs que tout le monde connaissait, qu'on voyait atteindre un très haut niveau et qui disparaissent perdus dans des gros effectifs. Et on disait à quel point ça va appauvrir les autres championnats, le fait qu'ils prennent tous ces joueurs-là, qui nous laissent un petit peu les deuxième, troisième catégories, où là aussi, tu auras ce même brassage de joueurs. Tout le monde croque dans l'histoire.
Ce matin, je vois Morgan Schneiderlin quitte Nice il part en Australie.
Ouais.
Bon. Je me dis, c'est vrai, au fait, il était à Nice, et qu'est-ce qu'il faisait à Nice ces derniers mois?
Son retour en France,
c'est un garçon,
il aurait dû revenir à Strasbourg.
C'est un garçon bien structuré, bien élevé.
Je pense pas qu'il soit malheureux, lui. C'est pas l'exemple du mec qui est malheureux.
Il a fait quelques gros contrats en Angleterre, en Australie.
Je pense qu'il y a pire.
Il va jouer dans un club très très chaud en Australie, d'ailleurs, dans la banlieue ouest de Sydney, c'est les supporters les plus chauds d'Australie.
On a le spécialiste du football australien.
West Wanderers.
Spécialiste de l'Australie, du football australien, je sais pas.
Surtout
de Sydney.
Mettons un tout petit peu l'argent pour une fois de côté et pour revenir.
Je t'emmènerai, Stéphane. J'ai emmené Daniel, il l'a pas aimé du tout.
L'Australie?
Il a fallu marcher 15 minutes pour aller à la plage, il a râlé. Il a râlé pendant 15 minutes.
N'importe quoi. Il faut savoir que quand tu commences une balade avec Zilla, c'est toujours 15 minutes. En fait, après, c'est toujours une heure.
Donc une heure au soleil, au bord de la mer.
Ah oui, mais t'avais qu'à dire tout de suite que c'était une heure.
C'est beau, ce petit coup. Cette scène de ménage.
Tu marches. Mais quand est-ce qu'on arrive? Il dit, mais c'est bon, je t'ai dit un quart d'heure. Bah oui, sauf que ça fait trois quarts d'heure maintenant. Parce que lui, il adore marcher. J'ai aucun problème à marcher. Je veux juste pas qu'on me dise c'est 10 minutes ou un quart d'heure.
Ça me rappelle,
alors que c'est une heure.
C'était une interview de Vincent Guérin.
Si je t'avais dit une heure, tu serais pas venu. Je te connais.
Quand il joue au Paris Saint-Germain.
Non, j'aurais juste pris une bagnole. Il est fort, lui. C'est quand même incroyable, ça. On s'y serait retrouvé à la plage. Il n'y avait pas de souci.
demandait à Vincent Guérin, pardon, je termine mon histoire, parce que c'était un joueur qui courait énormément sur le terrain. Et on lui, je me souviens d'une interview que j'avais faite avec lui, j'étais très très jeune, et je lui demandais pourquoi il courait comme ça. Et il m'avait répondu, c'est parce que j'aime pas marcher.
Très bon, très bonne réponse.
C'était très drôle. Ouais.
Alors non, juste sur, je finis sur Dieng quand même, je voulais. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est un peu comme Balerdi. Dans l'esprit général des Marseillais, il n'est pas bon. Mais c'est pas vrai qu'il n'est pas bon. C'est pas un mauvais joueur.
On l'a très peu vu finalement.
Ben oui, mais on l'a vu faire des trucs. Ouais. Rappelez-vous le but magnifique qu'il met l'an dernier contre Strasbourg. Quand il rentre, il est percutant.
D'une, c'est pas un crack. Et deux, je pense que l'OM va avoir mieux.
On t'a jamais dit que c'était Sadio Mané.
Non, je pense que l'ambition.
Pour rester dans la fibre.
Je pense que l'ambition de l'OM, c'est d'avoir un œuf plus fort que ça.
D'accord. Enfin, c'est un bon joueur.
Après, je pas dit que c'est une pipe. Mais s'il va à Lorient, c'est mieux.
Bon, Dieng, c'est largement au-dessus de La Fuente, Luis Enrique et Luis Suarez.
Là, tu parles de banane et limite de.
C'est mieux traité.
Et mieux payé.
Pas forcément.
Ah si.
Oui, mais ça, après, c'est les négos. C'est bien comment c'est dans le foot. Des fois, il y a des choses complètement folles. Des joueurs qui sont avec des gros salaires, des erreurs, des négos qui ont été mal faites.
Mais c'est pas des numéros non
plus.
Tu
connais des clubs qui ne se sont pas fait enfler. Regarde le PSG, les salaires qu'ils donnent à tout le monde, à des pipes de premier ordre. Bon, voilà, ça arrive à tous les clubs.
J'ai lu un truc extraordinaire ce matin dans l'équipe à ce propos. C'est sur je regardais le papier sur la prolongation attendue de Messi. Et donc, disait de source interne au Paris Saint-Germain, on précise que Messi donc est rentable. Que Messi, si on fait le coût de Messi par an et ce qu'il rapporte au club, ils ont calculé ça. Donc, il serait rentable de 15 millions d'euros par an, Messi.
Oui, seulement, j'ai vu ça.
Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me dis, si la tête de gondole numéro 1 du Paris Saint-Germain ne rapporte que 15 millions par an net dans les caisses, qu'est-ce que ça doit être pour tous ceux qui sont très très largement, et donc là ça doit être le 90% de l'effectif, de ce point de vue-là, si on fait ce même calcul, déficitaire. Et on comprend après que le Paris Saint-Germain ait perdu l'an passé 370 millions d'euros, ce qui n'est pas grand-chose.
Jason, un truc à rajouter ?
Non, juste un constat, on ne peut pas mettre l'équipe extraordinaire dans la même phrase, ça ne marche pas, je vous le dis. Les articles de l'équipe, c'est un peu, c'est limite quoi.
Attends, c'est incomplet, on n'a pas compris.
J'ai pas compris ce que tu as dit, Jason.
J'ai dit mettre l'équipe et extraordinaire dans la même phrase, ça fonctionne pas.
Ah, le journal, l'équipe,
tu
veux dire ?
Ah,
tu n'es pas fan. Bon, ben, ça, chacun ses goûts.
Oui. Enfin, t'as pas forcément mauvais goût. Et Jason, moi, alors, en hommage à la Toison d'Or ou Jason Boutoual ?
Alors, ça, j'ai aucune idée.
J-A-S-O-N ?
Exact.
Parce que tu te souviens que l'ancien Lillois Jason Boutoual, c'est écrit pas du tout.
D-J-E-Z-O-N. En phonétique. Jason, merci. Ou peut-être un hommage à Jason Statham.
Aussi.
Rappelez-vous.
Parce qu'à la Toison d'Or, c'est un peu plus vieux comme ref.
Oui, puis il n'y avait pas Jason Statham dedans.
Statham, c'est plus récent, oui.
Dans un instant, le reste de l'actu Mercato du jour. Je vous signale que pendant ce temps-là, l'Atlético mène toujours 1-0 sur le terrain du Real en Coupe du Roi à la 71e minute. Et puis je parlais des Meranou tout à l'heure.
Super bien placé pour l'Atlético. C'est Griezmann qui va tirer.
On peut le suivre.
Commente-le, Stéphane. Allez.
Ah oui, pardon, Daniel. il faut que je retrouve cet habit là.
Oh, quelle belle frappe!
C'est là-bas ou c'est un arrêt?
Arrêt de Courtois. Je pense qu'elle prenait la direction de la lucarne, cette belle frappe. Il n'a pas enroulé, il a juste mis une grosse frappe.
Sous la barre, c'est pas la lucarne.
Ouais, pas lucarne.
En tout cas, toujours à 0 pour l'Atlético. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
22h33, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là. Je vous parlais des merlus tout à l'heure. J'ai découvert que le merlu, en fait, c'est aussi le colin, c'est le même poisson.
Bien sûr, voyons.
Non, mais lui, il croit que les canaris, c'est le fils du canard. Il a donné des leçons de poisson.
En poisson, je suis béton.
Mais tu savais que le merlu, c'est le colin, c'est la même chose.
Oui, c'est la même famille, tout ça.
Ah bon, tu savais qu'il vit dans la grande profondeur et qu'il remonte à la surface que la nuit.
C'est la même famille.
Cabillaud, c'est la même famille ?
Oui.
Je vais vérifier. Juste avant de continuer le débat sur le mercato.
Allons à Messine pêcher la sardine. Allons à Lyon pêcher le.
Stéphane, je te demande quand même d'évaluer cet extrait culte.
Oh non.
Attention à ce ballon qui traîne. Oh, c'est but. Oh, l'ouverture du score pour Emmanuel Pogatet qui traînait là. Il était, lui, le défenseur monté sur le corner précédent. Il était resté devant et il reprend ce ballon de volée. Quel beau but d'Emmanuel Pogatet, le joueur de Middlesbrough.
Ouais, le cabillaud, c'est la morue, c'est la même chose. Arrête un peu, ça n'a rien à voir avec le colin.
C'est la même chose que la morue.
Donc la morue, c'est pareil que le colin. Non, mais qu'est-ce que tu racontes ?
Si, c'est même famille de poissons. C'est même famille. C'est comme toi avec ton cousin. C'est comme un cousin.
Le poisson, arrête.
N'importe quoi.
Mais si, c'est pas. C'est, demande à un poissonnier d'appeler.
Ben, je demande à un poissonnier d'appeler. Est-ce qu'il fait partie de la famille des gadiformes, cette famille de poissons, les gadiformes?
Absolument, voilà, c'est un cousin. C'est de moins bonne qualité. C'est en gamme, c'est un peu en dessous.
Bon. Alors, l'extrait,
le
Stéphane?
Le filet de cabillaud, c'est mieux que le. Celui que t'as dit avant, le merlan.
Merlu,
voilà. C'est plus haut de gamme.
Bon, bah, en fait, pas du tout. C'est pas la même famille, mais bon, c'est pas grave. donc l'extrait, Stéphane.
Écoute, je pense que.
Là, t'es à Canal, par exemple. T'es dans tes fonctions T'es dans cette fonction.
Eh ben justement, je vais faire un petit rapproché de ça.
Est-ce que tu prends ce jeune qui débute?
Dans la vie, il faut savoir ce qu'on sait.
Alors, par contre, moi.
J'étais un jeune débutant.
Non, mais dans la vie, il faut cerner ce qu'on sait faire, quels sont nos potentiels et ce qu'on ne peut pas faire.
Mais j'en ai fait des mieux après.
Je pense que Daniel a vite compris que c'était pas sa voix. Moi, j'en parle d'autant plus librement parce que tu me demandes d'évaluer. Moi, quand j'ai été, malheureusement pour moi, une époque de ma vie, directeur de la rédaction de Canal, t'imagines. Et c'était pas du tout fait pour moi. J'étais à peu près comme manager à Canal au niveau de Daniel comme commentateur. Donc il faut savoir ce qu'on sait pas faire dans la vie. Voilà. C'est important.
J'ai un autre extrait, écoute.
Oh là là, et le deuxième but. Oh, c'est incroyable, c'est Yonko.
Hop là, boum, et ça va dans la lucarne.
T'étais tout seul, Daniel, ou vous étiez deux?
Hop là, boum, ça se fait plus. Maintenant, on parle de.
Ah, ça fait
maintenant, on dit
aujourd'hui.
Elle est belle cette image. On dit là, voilà, il a fracassé les lignes. On dit le cadre se dérobe.
Parce que c'est mieux de dire le cadre se dérobe.
Mais non, mais justement, je vais dans ton sens.
Hop là, boum.
Moi aussi, je préfère hop là, boum.
Le cadre se dérobe.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu commenterais en disant hop là, boum, ça ferait
son effet.
Ouais,
complètement. C'est un style.
Ce serait une sorte d'hommage. Tu pourrais, si tu veux. On peut lancer un pari. Si tu arrives à le placer dans ton prochain commentaire.
Hop là, boum.
C'est quoi, c'est PSG Bayern?
Hop là, boum. PSG Bayern, ouais, normalement.
Ah, tu vas rien commenter avant?
Bah non.
Ah, c'est compliqué dans un PSG Bayern, tu y penseras pas, tu seras trop pris par l'événement.
Ah, ça peut faire un peu allemand, tu vois. Oh, égalisation du Real à l'instant, messieurs. Un partout entre le Real et l'Atlético, but de Rodrigo en effet. Je continue les infos mercato. Les gars, il y en a d'autres aujourd'hui à souligner, et une importante, vous savez que Polo, ça fait des semaines et des semaines qu'il nous dit que Skiri, l'ancien joueur de Montpellier, qui est à Cologne, il fait une saison exceptionnelle. Il y a eu à Cologne Bayern d'ailleurs, rappelez-vous, il y a quelques heures de cela, Polo était là pour nous en parler, il y a 48 heures, un partout. Et bien figurez-vous que Lyon s'intéresse de très près à Skiri, il est milieu défensif, hein, je le rappelle, les discussions sont très avancées entre...
Le fils de la vache.
Ah, pas mal. Pas mal. Il est international tunisien, hein, je rappelle, Skiri. Donc,
plus en point sur les vaches que sur les poissons, Daniel.
100 matchs de Ligue 1, ouais, ou les oiseaux. Il est en fin de contrat en juin, donc ça peut être arrangeant pour Cologne de le vendre maintenant. Mais donc, Skiri se rapproche de Lyon, ce qui est quand même plutôt pas mal.
C'est vrai que Polo l'avait mis dans son équipe type, je crois, de la Bundesliga.
Ouais, non, mais il en a plein la bouche de Skiri depuis le début de la saison.
C'est le meilleur milieu défensif de la Bundesliga. Mmh. Il a joué contre Nice, il avait été en Europa League, il avait été très bon.
Bon, voilà. Donc, parce qu'on parlait l'autre jour du mercato de Lyon, on disait pareil, le jeune Brésilien Textor s'est mis sur le dossier, ça a foiré. Là aussi, on avait été assez critique sur le mercato lyonnais. Il y a quoi, 48 heures maintenant, on avait fait un débat dans l'after. Donc, voilà une avancée, pas encore officielle, mais à suivre. Et puis Angers a recruté Faouzi Ghoulam pour 6 mois. Il n'avait plus de club, l'ancien joueur de Naples.
Perdu de vue complètement, lui. Hein.
Ouais, ben, il s'entraînait en fait avec Angers depuis plusieurs semaines. Donc finalement, il a signé au club.
Ils peuvent pas. Je sais pas où il en est et j'ai pas beaucoup d'espoir le concernant. Mais vu ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, ça peut pas être pire que ce qu'ils ont de toute façon. C'est une équipe qui a été à
manger sur samedi en perdition, les pauvres.
En perdition. Mmh.
Ouais.
Ça,
ouais. Bah oui, c'était en mode défensif, bus contre une équipe de Régional 1. C'était pas très glorieux. Voilà pour l'actu mercato. Vous retrouvez tout le reste sur rmcsport.fr. Avant de parler d'Italie, juste un mot quand même. Demain, il y a la reprise de la Ligue 1, les gars, avec donc Lorient-Rennes. Pas mal comme match, ah ouais. Lorient-Rennes, parce que comment Lorient va-t-il se relever de ces 15 jours de mercato un peu fou là? Rennes, là aussi, il y a eu un peu de mercato, des blessures. Comment vous voyez ce match de demain soir?
En se rappelant que la première journée de championnat, si je me souviens bien, Lorient était allé gagner à Rennes. Et bon, on l'avait pris comme ça pour un coup, mais c'était un coup qui annonçait la première partie de saison formidable des Lorientais et la patte Lebrise. Donc ça va être effectivement un match intéressant, même si je pense que le rapport de force est...
Et normalement spectaculaire, entre deux équipes qui jouent et qui essayent de mettre des buts. Ça devrait
C'est surtout une équipe qui attend, une qui aime prendre des initiatives, donc ça va être...
Pourquoi tu dis une qui attend?
Je trouve que Lorient, c'est une équipe de contre-attaque.
C'est un petit peu réducteur. Non, c'est deux équipes qui aiment être protagonistes et qui aiment jouer. Non, je pense que ça peut être un très bon match. On devrait avoir des buts, ouais.
Dans quelques instants, l'Italie, les gars, alors qu'évidemment, le débat poisson enflamme direct studio. Olivier nous dit, Daniel a raison, la morue et le cabillaud, c'est la même famille, c'est les poissons. Je sais pas si t'as dit ça. Bref, allez, l'Italie, parce que il y a grosse tempête à la Juve là. On vous explique ce qui se passe dans quelques instants avant de parler ensuite d'Argentine dans la longueur, un peu plus d'un mois après la finale de la Coupe du Monde dans l'After.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
22h43, l'After est là jusqu'à minuit avec Stéphanie, avec Daniel Riolo. On va vous parler d'Italie. Mais juste avant, un mot du PSG quand même. Vous avez vu les images du jour qui sont assez étonnantes, puisqu'on a vu Neymar, Messi avec un casque de chantier, puisqu'ils ne sont pas partis au Qatar construire des stades. Les stades sont déjà construits, c'est trop tard. Ils sont allés visiter le chantier du futur centre d'entraînement du PSG. Et ils avaient l'air très heureux d'être là. Le mec, il tirait une tronche de 12 pieds de long, là, avec anorak de chantier PSG, casque logoté.
Anorak logoté, c'est magnifique.
Anorak logoté. Dans votre truc, il y avait une petite opération de com qui avait été bien préparée. Voilà. Et puis, alors, tu voulais raconter, Daniel, une histoire de chasuble.
Alors, écoute, cette histoire, c'est. Alors, je ne sais plus son nom sur Twitter, qu'elle a été racontée. Et donc, il a fallu vérifier, parce qu'il y a parfois des choses qui sont intéressantes et vraies, et parfois d'autres, ça peut être des fakes. En l'occurrence, c'est vrai, on a vérifié. Il y a des images d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et les joueurs du PSG ont tous mis une chasuble jaune. Et en fait, l'idée était de faire passer un message à Christophe Galtier et de le sanctionner parce qu'il avait promis 2 jours de repos, mardi, mercredi, et finalement, il a enlevé le mercredi. Et ça n'a pas plu aux joueurs. Notamment des cadres qui ont décidé.
Donc hier et avant-hier, tu veux dire, là, c'est en l'occurrence.
Parce qu'il y a une visite de chantier, je pense que c'est la raison pour laquelle il a dû enlever.
Aujourd'hui,
ils ont fait entraînement et visite de chantier.
Nous t'adressons un carton jaune. Alors, pour être tout à fait honnête, il paraît que c'était plutôt un message bon esprit. Mais bon, voilà. Donc, Galtier se fait respecter. On lui met un carton jaune. Parce qu'on estime que ses décisions sont un peu sévères. Voilà, je me suis dit que cette histoire pourrait t'intéresser, Stéphane.
Ouais, c'est toujours amusant. Bah, dès que ça touche le Paris Saint-Germain, évidemment, ça prend une proportion autre. Voilà, bon, je prends connaissance de l'information, je la connaissais pas, donc c'est effectivement amusant. Si c'est dans un bon esprit, ça me paraît sympa, quoi. Mais
c'est ce que eux disent. Hein.
Ouais, il y a pas de raison non plus, d'en faire une affaire. Il y a suffisamment de sujets
En fait, franchement, ils étaient pas contents. De voir un jour de repos sauter. Donc ils ont préféré en rire en faisant ça, mais ils n'étaient pas contents. Mais bon, on est dans un contexte où la star du club part au ski quand il a envie de partir au ski. D'autres jouent quand ils ont envie de jouer. De toute façon, on sait bien que c'est le 14 février que ça compte. Tout le reste, ça compte pas. Donc attendons le 14 février. Le matin, ils auront tous un petit interrupteur sur la table de chevet. Et puis ils retrouveront...
Ce qui doit les rendre confiants en ce moment, c'est de regarder les autres. C'est-à-dire que là, on regarde le Real, on regarde pas, pour être franc avec vous, mais on a regardé un peu le Real depuis la reprise. C'est quand même pas terrible. Le Bayern, c'est pas terrible. Manchester City, ça a du mal à remettre en route, etc. Donc voilà, il y a pas que Paris qui peine, même si effectivement, sportivement, en tous les cas, les premiers matchs du Paris Saint-Germain 2023 sont inquiétants.
Bon, c'est ce qu'on dit tous les ans. C'est-à-dire que t'as le tirage au sort en novembre, ou début décembre, je sais plus. Et puis là, c'était plutôt avec la Coupe du Monde. Et puis après, il se passe 3 mois. Donc,
oui, mais tu vois des fois des grosses équipes en Europe. Tu vois l'année dernière à la même époque, Manchester City, ils volaient. Tu te disais voilà une équipe où le Real était. Là cette année, c'est pas le cas. Mais ça veut rien dire hein, parce que peut-être que le Real ou City dans 15 jours, 3 semaines vont être imprenables, comme le PSG.
Avant de vous parler d'Italie, une autre information aujourd'hui dans Presse Océan. Une ancienne collaboratrice de Noël Le Graët s'est exprimée. Elle a dénoncé elle aussi des propositions sexuelles du toujours président de la Fédération française de football qui s'est mis en retrait. Alors elle témoigne anonymement.
Le Comex a continué à dire bon, c'est pas vrai, on n'y croit pas. Ça.
Là, on n'a pas de réaction du Comex.
Non, mais Deschamps, Domenech, tous ceux qui n'ont pas arrêté de dire tout ça, c'est des racontards de journalistes. Voilà.
Bien ah oui, là, je pense qu'on peut plus dire.
Eux, j'aimerais bien les entendre après. Un moment là, après, là, j'aimerais bien. Là, je veux encore leur laisser 2-3 mois. Et à un moment, j'aimerais qu'ils viennent. Je crois même que j'ai entendu un journaliste anciennement très connu dire que tout ça, c'était des racontards, que c'est du bidon, du mauvais journalisme et qu'il n'a jamais rien fait. Donc ces femmes inventent, sont des menteuses. Cette dame-là,
je vous livre son témoignage
et puis toutes les autres, et puis tout ce qui sortira dans l'audit sera des mensonges pour certaines personnes. Heureusement, ils sont minoritaires.
On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui serait arrivé si Le Graët n'avait pas bu un coup de trop le dimanche où il répond à Marion Bartoli sur un tout autre sujet, parce que
on aurait continué.
Non. Ouais, mais enfin, l'élément déclencheur quand même de la chute de Le Graët, ce sera ses propos clairement sur Zizou. Donc absolument rien à voir avec les vraies questions. Ce qui est un problème tout à fait anecdotique. Les vraies questions de fond, heureusement, elles ont pu sortir derrière cette
parfois,
déclaration.
Parfois, tu tombes pour un truc un petit peu à part. Exactement. C'est toujours le vieil exemple d'Al Capone qui est tombé pour fraude fiscale.
Bien sûr.
Donc cette dame est en fait une ancienne collaboratrice de la société de Noël Le Graët à Guingamp. Elle témoigne, elle dit combien de fois m'a-t-il dit tu dois
être bosser chez Tout-Par-Gel ?
Non,
c'est pas Tout-Par-Gel, c'est Celtigel.
Voilà. Bon, elle dit tout de même attention, il y avait des propos intolérables à son encontre, mais il dit jamais il ne m'a touché, mais on savait, dit-elle, que l'alcool le désinhibait. Tout le monde le savait, dit-elle. Quand il revenait d'un repas professionnel, je me disais attention, et on se disait tous entre nous que c'était un chasseur. Voilà. Elle emploie cette expression, un malade du zigouigoui.
Oui, c'est une expression un peu désuète, je dois bien dire. Voilà. Zigouigoui peut dépasser.
Mais bon. Qui veut dire ce qu'il veut dire.
Exactement. Voilà. Allez, l'Italie, maintenant.
Juste une remarque, pour rebondir un peu sur ce que dit Daniel quand même par rapport à tout ça, c'est que puisque ces dames parlent et que ça semble quand on c'est un peu comme l'histoire de la sur d'autres sujets hein, c'est un peu le même sujet, mais c'est un peu comme quand DSK a été pris la main dans le sac, c'était devenu trois jours après de l'honnêteté publique, tout le monde disait on savait que etc, alors que c'était quand même un type qui était parti pour être le candidat favori à l'élection présidentielle
en France. La différence, Stéphane, permets-moi, c'est que à l'époque DSK, tout le monde savait. Mais et beaucoup de journalistes et ils ne le disaient pas.
Ouais.
Noël Le Graët, tout le monde le sait, mais beaucoup le disaient. Et moi, je n'ai eu de cesse de répéter tout ce que je pensais de ce monsieur.
Oui.
On était quand même quelques-uns à dire vraiment. Moi, je.
Oui, mais Daniel, je parle.
Ça, je l'ai toujours su.
Je te parle pas forcément des journalistes. Je te parle des gens en place. Vous avez reçu hier Frédéric Thiriez, qui a des idées excellentes sur la réforme de la. Mais Frédéric Thiriez, il était président de la Ligue. J'ai regardé son crédit jusqu'en 2016. Donc, il a été. Et pendant de très nombreuses années,
des gens qui
il était
tout,
à la table avec Noël Le Graët, donc il devait lui aussi le savoir. Et tous ces gens,
comme tous les gens du Comex aujourd'hui,
voilà.
Et d'ailleurs, la plupart de ces gens-là sont eux ceux aussi qui nous ont permis de savoir, parce que nous, nos informations de suite, elles viennent de ceux qui sont à l'intérieur, de ceux qui ont travaillé à la Fédé, qui n'y travaillent plus depuis 10 ans. C'est des choses, c'est pas des choses qui tombent du ciel. C'est des choses qui
malgré tout,
les gens ne disent pas parce que soit ils ont peur de perdre leur taf, soit c'est souvent comme ça que ça se passe.
Il aura fallu le courage de quelques femmes, celles qui parlent, et puis aussi la ministre des Sports qui a quand même eu, qui aura jamais eu le mérite d'enclencher le process comme elle l'a fait aussi pour d'autres fédérations, parce que c'est quand même dur d'être passionné de sport en ce moment hein, quand on découvre une histoire complètement.
Dire quand une fédération marche bien en France,
tu te demandes surtout Gilbert. Enfin, on est tous papas d'enfants qui sont en âge de pratiquer le sport dans les clubs, quelle que soit la discipline. Aujourd'hui, tu te poses vraiment la question, quoi. Tu te dis, mais est-ce que je peux confier mon môme à des éducateurs, à des clubs de sport? C'est quand même ça la vraie question de fond autour de tout ça, quoi. Donc c'est quand même c'est des sujets extrêmement graves et qu'il va falloir effectivement traiter comme il se doit, quoi. C'est pas des
peut-être qu'il faudrait changer la perception du sport dans ce pays et pas le considérer comme la dernière roue du carrosse avec un budget de moins de 1% du budget de l'État. Le considérer comme un vrai sujet de société qui compte.
Sujet de société, budget et tout, c'est pas ça qui va faire que tu vas pas te taper des énergumènes à la tête des fédés.
Non, parce que
c'est le fonctionnement qui fait ça.
Oui, mais si le sport a une place comme il l'a, par exemple, je sais pas, dans les pays anglo-saxons, tu en parlais de l'Australie tout à l'heure, où le sport est une sorte de cause nationale, et du coup, c'est pris beaucoup plus au sérieux, donc c'est mieux géré, c'est mieux surveillé, c'est mieux financé, et au final, t'as des résultats, et puis, quand t'envoies ton gamin faire de la natation ou faire du foot, c'est encadré, c'est propre.
Voilà. Je ne sais pas si ça passe par ça. Tu as peut-être raison, j'en sais rien. Là, aujourd'hui, ce qui est surtout flagrant, c'est que c'est le système même qu'une fois que le gars est président de la Fédé, il devient intouchable. Et il nomme ses équipes en dessous. Tout le monde croque. Et ils ont tous leur petit rond de serviette. Et le steak et la soupe est bonne. Et après, plus personne ne dit rien.
C'est l'idée que chacun fait de sa mission. Hein. C'est ça qui est aujourd'hui en cause. Quoi.
Bon, j'en arrive à l'Italie. Alors, je vous explique ce qui se passe à la Juve. Alors, vous savez que la Juve a déjà perdu.
Un sujet un peu vertueux.
La Juve a eu un retrait de 15 points en Serie A. Rappelez-vous, à cause de plus-value artificiellement gonflée lors de nombreux transferts.
De comptes truqués, pour que les gens comprennent, les comptes sont truqués. Oui. Voilà.
Il y a une nouvelle
on avait évoqué ça dans je ne sais plus quel numéro de l'After. On avait parlé de ce fameux.
La revue de l'After.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Numéro de l'After.
Oui, revue de l'After. Mm-hmm. Ce fameux échange qu'on avait dénoncé dans un article, je pense que ça devait être Johan qui l'avait écrit, entre Pjanic et le joueur qui est au Barça, Arthur. Mm-hmm. Et cet échange qu'on ne comprenait pas avec des sommes de transfert artificiellement gonflées truquer les comptes. Et c'est de là qu'est partie cette histoire, hein. Et que derrière, Agnelli a été mis en danger, que c'est pour ça qu'il a été viré au préalable parce qu'on sentait que ça allait mal finir, et que la situation de la Juve aujourd'hui est très problématique parce que les 15 points, ça ne pourrait pas être que ça, et il va peut-être y avoir d'autres sanctions, et peut-être qu'il peut y avoir un effet domino avec justement des joueurs qui ont été l'objet de comptes truqués, notamment Dybala, de quelle façon il pourrait être sanctionné, il y a énormément.
Ils ont été complices du système.
Ah, attendez, laissez-moi vous expliquer.
Il y a une sorte de trouille dans le football italien autour de ça.
Donc aujourd'hui, on apprend que 22 joueurs, dont Cristiano Ronaldo et Dybala, pourraient être dans le viseur de la justice italienne avec en plus suspension sportive à la clé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces 22 joueurs sont dans une liste de joueurs qui sont soupçonnés d'être complices d'une fraude financière. Mise en place avec le club. En fait, pendant le Covid, printemps 2020, les dirigeants de la Juve ont négocié un paiement différé des salaires de leurs joueurs, comme beaucoup de clubs l'ont fait. Hein. Rappelez-vous, à l'époque, les joueurs disaient « Oui, bon, on va faire l'effort et tout. Bon. » Et la Juve a dit, d'ailleurs, c'est un des premiers clubs à l'avoir annoncé, ils ont dit « Nous, voilà, on propose aux joueurs de différer les paiements de salaire. » Maintenant, on comprend mieux pourquoi. Parce qu'ils ont reporté une partie des sommes prévues et ensuite, ils les ont versées en loose day aux joueurs sans payer d'impôts dessus, voyez-vous. Et les joueurs étaient au courant, à tel point que la justice a récupéré une conversation WhatsApp du vestiaire où Chiellini, qui est un des joueurs concernés, demandait à ses coéquipiers, les gars, surtout sur cette affaire, on n'en parle pas, le club est coté en bourse, c'est tendu, il ne faut surtout pas que ça se sache et que ça sorte. Donc en gros, là, il y a clairement entente entre les joueurs et le club, donc fraude, hein, fraude comptable, qui reste présumée malgré tout, parce que l'enquête est en cours.
Ça peut devenir une vraie folie. Hein. Dybala, alors les supporters de la Roma vont dire bah oui.
Et les joueurs qui sont toujours en activité risquent des suspensions sportives.
Absolument.
Aussi.
Ronaldo, par exemple, peut être suspendu dans son nouveau club saoudien. Voilà. Par exemple.
Et notamment Dybala, donc à la Roma. Alors on dit oui, mais là maintenant il est avec nous. Et les problèmes, c'est quand il était à la Juve. N'oublions pas, si je me trompe pas, qu'à l'époque Conte avait été suspendu à la Juve et pour des faits commis alors qu'il était entraîneur de Sienne à l'époque. Donc, on peut être sanctionné alors qu'on est dans un club qui n'a plus rien à voir avec celui.
Et là encore, je défendais les joueurs et leur humanité, mais là en revanche, ils sont complices parce que ils acceptent des choses et leur liberté est d'accepter ou de pas accepter. Et ceux qui se sont intéressés, c'est un tout autre sujet, mais à la fin entre le Barça et Messi, voient à quel point Messi ou en tout cas lui ou ses représentants ont aussi été complices d'arrangements financiers extrêmement opaques. Et
oui,
je sais plus. J'étais parti sur un truc et je m'arrête en cours de route.
De mémoire.
Ça s'appelle la vieillesse. Ouais. 22h57.
Ouais, c'est l'heure de la pause. C'est normal.
Non, ce que je voudrais juste Gilbert. Non, ça n'a rien à voir, mais parce que comme je savais qu'on allait parler de la Juve ce soir, j'ai regardé. Je vous conseille tout. Je l'ai déjà dit dans cette émission, mais de lire ce qui est sans doute le meilleur bouquin sur le foot, c'est 44 jours de David Peace, qui raconte le mandat de. Ça a été un film aussi qui a eu du succès, mais Damn ça United. Raconte le mandat de Brian Clough à la tête de Leeds United, 44 jours. Mais avant d'être à Leeds. Ouais, je sais pas, tu dis Clough.
Ah non, vous êtes moqué de moi sur les commentaires tout à l'heure. J'ai le droit à une petite
alors,
vengeance.
Là, tu peux t'amuser là.
Brian Clough.
Bon, Brian Clough, et qui avant d'être à Leeds, était l'entraîneur de Derby County. Il était champion d'Angleterre avec Derby County. Il a joué la Coupe d'Europe des clubs champions avec Derby County. Et il a emmené Derby County, ça paraît improbable aujourd'hui. Et on fêtera les 50 ans cette année, en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre la fameuse Juventus de Turin. Et je conseille à tous de lire ce livre. Ouais. Et de lire le chapitre qui concerne la demi-finale aller-retour. Derby County, Juventus de Turin, parce que la Juve dans les mauvais coups, c'était déjà pour résumer très vite. Il y a des pages savoureuses, et notamment parce que l'arbitre du match retour, qui était un Portugais, après le match, a dit qu'il avait été, on lui avait proposé de l'argent et une Fiat pour favoriser la Juve lors du match retour en Angleterre.
Franchement, pour une Fiat. Et pour une Fiat multiple,
on est en 73.
Il n'y avait pas du tout multiple.
On est en 73. Gilbert.
Dès qu'on parle de Fiat, il s'énerve.
Mais l'UEFA n'avait évidemment pas ouvert d'enquête. On était déjà les coquins et les copains. Voilà. Mais vous verrez que les histoires, voilà, les histoires, les mauvaises histoires autour de la Juve qui a aussi sa grandeur, mais qui a sa grandeur et son ombre.
Allez, dans quelques instants, on est de retour avec l'Argentine au programme dans l'After. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.